underwater cop.
À tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes en notre compagnie pendant une heure sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+ ou sur notre site campuslille.com. Aujourd'hui, on va, comme d'habitude, parler d'activités geek et ludiques et d'actualités en compagnie de moi-même, François de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut tout le monde.
Comme d'habitude, un agenda assez bien rempli. Et nous avons maintenant autour de la table... Nous allons te décerner le prix, Dominique, de Globetrotter. Tu as parcouru ces derniers mois plusieurs événements qui se passent dans la région et même plus loin. Alors là, tu t'es déplacé un peu plus loin à Amiens.
Ah oui, c'est un festival qu'on avait annoncé la semaine dernière, les semaines d'avant. C'était la deuxième édition du salon À toi de jouer qui se déroule à Amiens, à Mégacité, pendant la période de la foire commerciale, on va appeler ça, qui, elle, se déroule du 14 au 17, donc qui se termine aujourd'hui, et pendant le week-end dans le salon. Donc à Mégacité à Amiens, il y a le salon À toi de jouer qui réunit des joueux, des joueurs, du cosplay, de la culture geek en général. Tu peux croiser des gabis en Star Wars ou en troll ou je ne sais quoi, c'est assez amusant.
Alors, il y a plusieurs salons, hein, c'est ça,
c'est ça.
C'est le salon des salons.
C'est la foire exposition de Picardie d'automne, qui était un peu plus courte, elle faisait que 5 jours. Donc effectivement, si vous y allez dans la semaine, vous pouvez acheter une voiture, acheter une maison, changer votre salle de bain, avoir un prêt immobilier, repartir avec des caisses de vin, de bière, de cidre, de rhum, etc.
Et un droïde,
parce qu'il y avait des constructeurs de robots R2-D2, un accordéon, ou pas. Et des dédicaces de vedettes locales. Enfin, c'est très sympa. Et repartir avec la fibre même. Enfin, il y avait tout. Et des gadgets, puisque dans tout ce genre de foire, il y a les démonstrateurs dans le hall qui te démontrent leurs gadgets et qui font des... Enfin, c'est génial. Tu peux les camelots, tu peux les écouter pendant des heures parler, présenter leurs produits. C'est excellent. Et avec des trucs plus ou moins utiles, on va dire. Mais bon, c'est une foire commerciale, c'est l'occasion d'y aller. Il y en a pour toute la famille. Surtout qu'en plus, c'était gratuit cette année. Je crois que l'année dernière, c'était peut-être 5 euros l'entrée, mais là, c'était gratuit. C'était offert par la métropole d'Amiens pour accueillir, remercier tous les gens. Alors, bien sûr, masque et compagnie. Et donc, moi, je me suis particulièrement intéressé, pas qu'à la bouffe, hein, oui, mais au salon, au festival du jeu, ça me permettait de rencontrer des gens qu'on rencontre un peu partout, pour ceux qui font les salons, des têtes connues. Il y avait Gigami qui était présent, il y avait les boutiques locales, des associations qui animaient les tables, j'y suis allé donc le samedi après-midi, ça s'est rempli tout doucement, et quand je suis parti en fin d'après-midi, c'était effectivement, toutes les tables de jeu étaient pleines. Ça fait que dans ce genre de salon au début, les animateurs qui jouent entre eux et des gens qui viennent voir timidement. Surtout que c'est sympa parce que t'as les visiteurs des autres salons, les gens qui sont venus pour acheter du vin ou une voiture ou je ne sais quoi, ils passent devant le salon, c'est coloré, il y a des gens en costume bizarre, on va les voir. Et puis c'est marrant, donc ils posent des questions, ils voient des jeux qui ont l'habitude de... Ça ressemble pas au Monopoly ou je ne sais quoi, bon, c'est triste. Mais et puis ça sied, et puis ils restent plus longtemps que prévu, et puis c'est sympa. Ça permet de tester des nouveaux jeux.
Donc il y a besoin de renfort pour expliquer les règles du jeu, peut-être ?
Oui, souvent, oui.
Alors, c'est pas bête, parce que généralement, nous, quand il y a un salon, il est un peu isolé. Alors après, à part le Zénith, l'île Grand Palais, est-ce qu'on a des endroits où vraiment on peut réunir plusieurs salons comme ça ?
Oui, ça peut être le cas au Grand Palais, effectivement, quand il y a plusieurs expositions en même temps. Le salon du tourisme et du chocolat en même temps. Voilà,
et du mariage. Et puis...
Exactement. Comme ça, tu peux faire le mariage, tu choisis ton voyage de noces et tu repars avec la boîte de chocolat. C'est pratique. Et donc, qui est-ce que j'ai vu ? Il y avait Cyril Blondel que j'avais rencontré au salon de Croix à Saint-Paul-sur-Ternoise la semaine d'avant. Et qui sera notre invité le dimanche 7 novembre. Lui, il travaille à son compte, et puis il travaille pour Flip Lab Edition et Smart Games. Donc, on aura plein de sujets à voir avec lui. Et c'est lui qui a remporté l'un des prix des groupements des boutiques ludiques.
C'est ça.
C'est ça, avec son jeu Ricochet, dont la deuxième édition est sortie. Et puis, il y a plein de jeux. Qu'est-ce que j'ai pu tester des jeux que je connaissais pas. Il y en a qui ne savent pas. Alors, en plus, je l'ai même pas testé. C'est un des jeux auxquels j'ai pas joué, mais j'ai vu des joueurs y jouer. Ça m'a donné envie de jouer. C'est un jeu qui s'appelle Rush Out. C'est sorti chez... C'est un jeu de rapidité, asymétrique. Donc il y a un joueur qui joue un sorcier, qui protège son trésor, et les autres joueurs jouent des explorateurs qui doivent essayer de piquer, de repartir avec le trésor. Et on lance, tout le monde a des dés. Donc on lance des dés à six faces, avec plein de symboles dessus, et on a des cartes devant nous, aussi bien le sorcier que les héros. Et il faut essayer de remplir le plus vite les cartes avec des symboles. En jetant les dés, on peut les jeter. Tout le monde joue en même temps, c'est pas à son tour. Et le sorcier, lui, il essaye de réussir avec ses cartes à bloquer les joueurs. Genre, il peut les empêcher leur demander de lancer moins de dés ou les empêcher de mettre des dés sur une carte particulière. Et ce qui fait que ça rajoute des obstacles aux joueurs. Et il faut aller au plus vite pour trouver le trésor. Enfin, c'est un jeu qui est assez sympa. On peut tourner drôle, ça va vite, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, mes petits coups de cœur, donc c'est Rush Out, l'un des nombreux jeux qui sortent avec un titre en français. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah ben j'ai croisé quelqu'un d'autre qu'on va recevoir aussi bientôt, la semaine prochaine normalement. C'est Geoffrey Wood qui a fait un jeu avec un titre aussi en anglais, Explorers of Woodland, et qui est bientôt sur Kickstarter, on en reparlera avec lui, c'est un gars du coin en plus, donc il sera au salon Hammertime, donc on va continuer dans notre tradition à chaque fois de dégoter des invités au Hammertime et de les inviter le soir à l'émission.
C'est ça. Alors, si vous n'avez pas écouté l'émission de la semaine dernière, il va falloir le faire, hein, ouais. Sur le site de Campus, vous êtes dans la rubrique podcast, et on a reçu les organisateurs du salon de Hammertime, donc qui font partie de la Forge Ludique, qui nous ont bien détaillé l'événement et qui vont sûrement revenir pour parler d'autres sujets. Et du coup, ça se passe le 23-24 octobre, donc c'est la semaine prochaine.
Exactement.
Le week-end prochain. Ça se passera à côté de Sébastopol.
C'est ça, c'est la salle du gymnase, juste à côté du théâtre Sébastopol à Lille.
Et c'est un événement vraiment sympathique, entrée libre.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Gratuite, et vous pouvez participer si vous avez bien aimé l'événement. Voilà, on peut dire ça.
Comme on dit, au chapeau.
Voilà. Et on leur tire notre chapeau également pour leur troisième édition qui, je suis sûr, va très bien se passer.
Un autre truc que j'ai vu à Amiens, des gens sympas qui s'appellent Viva Historia, qui font des ateliers historiques, et ils participent notamment à un escape game. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'escape game. Un escape game un petit peu original, donc le site, c'est pas compliqué, c'est escapegameinsolite.com, c'est tout dire. Mais ça se passe sur un site de V1 de la Seconde Guerre mondiale, je trouve ça un petit peu original, dans vraiment conditions. Souvent les escape games, quand c'est en pleine ville, c'est dans un studio, un décor reconstitué, où on bricole, on fait un faux décor de, je sais pas, d'une base militaire. Mais là, ça se passe vraiment dans un site historique militaire, une ancienne base de V1.
Alors, tu soulèves un point, puisque c'est vrai que les escape games ont extrêmement souffert ces dernières années, on le sait pourquoi. Ouais. Alors, il y a eu des aides pour les restaurants, etc. Mais je pense pas que pour ce type de structure, elles ont été accompagnées. On voit certains...
C'est un peu comme les boîtes de nuit, ouais. C'est difficile en plein confinement, avec la distanciation sociale. À moins de faire des escape games solo, mais je vois pas trop l'intérêt.
Et est-ce que la hype, du coup, pour l'intérêt de résoudre des énigmes, a pas baissé?
Non, parce que les gens ont pu tester ça en ligne éventuellement, parce qu'il y en a qui sont, voilà, il y a pas mal de
il y a des jeux de société
jeux de
type, également,
voilà, des jeux vidéo ou jeux de société en ligne de style enquête, etc. Voilà, ça reprend. Donc je pense que ça va revenir. Voilà, c'est sûr qu'ils ont souffert, mais bon, à mon avis, ceux qui ont survécu vont redoubler d'originalité. Donc voilà. Donc pour cet escape game là, en tout cas, escape game insolite, tout collé. .com. Donc ça se passe, c'est dans le Pas-de-Calais.
Et tu as aussi tous les ateliers, toutes les réalités virtuelles, toutes les boutiques de ce genre-là qui ont aussi pas mal perdu lors des confinements, mais qui sont en train de bien de reprendre en ce moment, parce que les gens ont besoin de se changer les idées et aussi sautent sur tout ce qui bouge de réouverture. On voit les nombreuses réouvertures de festivals qu'il y a dans la région. Et donc forcément, les escape games vont reprendre là-dessus.
Alors tu parles de VR. Avant, on avait, vu que la VR était quand même assez chère et difficile à mettre en place, on avait des boutiques où tu venais, tu jouais une demi-heure. Alors ça, je pense que ces boutiques-là vont commencer à avoir du mal à exister. Il y en a déjà beaucoup qui ont fermé, tout simplement parce que maintenant...
Si tu ramènes rien à part, ouais.
On a le prix des casques qui a légèrement baissé, et on a aussi des casques tels que l'Oculus Quest ou autre, portable, où vous le mettez, vous jouez, c'est parti. Plus besoin d'installer pendant des heures, de trouver les jeux qui vont bien. Les seuls qui vont réussir à faire plaisir, c'est ceux qui cumulent avec une expérience. Soit des maisons hantées où vous allez vous balader vraiment dans un décor où j'ai pu voir notamment des gens qui faisaient de la chute libre, des simulations de chute libre, avec un casque de réalité virtuelle.
Ou alors là, j'espère qu'il y a une bafime à vomi en bas.
Tout simplement, tu as ce dont on avait parlé, mais il y a presque 2 ans maintenant, l'émission. Les salles de jeux comme les Terra Game Center, tu en as tourné, je crois que tu en as une à Paris, où justement, tu as une expérience de jeu où tu donnes le casque virtuel et tu dois avancer dans un manoir et tu dois même toi-même ouvrir les portes. Donc, tu as la sensation de la poignée de porte, de l'ouvrir, alors que tu es dans un jeu vidéo. Donc, ton cerveau se dit, mais tu es dans un jeu vidéo, tu as des graphismes de jeu vidéo, tu as des ombres. zombies qui arrivent, tu leur tires dessus. Mais tu as aussi le contact physique de te planquer derrière des objets, tu les ressens physiquement.
Ça, je pense que ça va fonctionner et ça fonctionnera encore.
Et donc là, ça va aider justement à tout ce qui est escape game, les autres magasins de réalité virtuelle qui vont être poussé et porté grâce à ce type de jeu.
Alors, parce que je vois qu'on n'a pas fini de dépiler les news de l'Ajada, est-ce qu'on ne se ferait pas une petite news qui nous permet d'écouter un peu de musique? Alors, tout le monde en a parlé, donc on va le citer sans vraiment le détailler.
Ouais, avec Zemmour encore.
Mais non.
Je crois qu'il sorte un album.
C'est William Shatner qu'on a écouté en plus.
C'est vrai. On a passé un extrait de son dernier album la dernière fois.
Voilà, puisqu'il aime la musique, il ne fait pas que se balader dans l'espace. Donc la news, c'est ça. Il est parti avec la compagnie de Jeff Bezos.
À plus de 90 ans, c'est ça. Donc ça fait officiellement de lui la plus ancienne personne est allée dans l'espace, si je ne dis pas de bêtises.
Alors voilà, qu'on peut appeler astronaute, même si c'est un peu dégradant pour
tous les autres. Voilà.
Oui. Il va juste dans l'espace, il prend des photos et puis il redescend. Il ne va pas vraiment travailler là-bas. Quoi.
Donc ça y est, la guerre est lancée entre SpaceX, alors c'est Blue Moon, hein, Jeff Bezos, et Virgin.
Du coup, ça va être la guerre entre les fans de Star Trek et les fans de Star Wars. Du coup, il faut trouver un personnage de Star Wars à envoyer dans l'espace. Encore plus vieux, peut-être.
Jar Binks.
Mark Hamill, avant qu'il soit...
Mark Hamill, je pense.
On envoie Hayden Christensen et puis il ne redescend pas.
Alors, je serais curieux de savoir s'il a payé son voyage, tout d'abord.
J'ai
un mouvement de tête de gauche à droite.
C'était payé par les publicitaires, on va dire. Parce que c'est quand même une vaste opération commerciale.
Alors, William Shatner, ça reste un grand fan de l'espace, puisqu'il avait sorti un album qui s'appelait Seeking Major Tom, en référence forcément à la chanson de David Bowie. Et c'était plusieurs reprises sur le thème de l'espace. Alors je vous propose d'écouter ça, la chanson...
Il a fait une reprise de Tout petit ma planète de Plastic Bertrand.
Non.
Oh.
Ah écoute, on va lui proposer peut-être pour son prochain album. Donc la chanson s'appelle Space Tracking, une chanson des Deep Purple, c'est bien ça?
Exactement.
On Venus. We always had a ball on Mars. Meeting all the groovy people, we've rocked the Milky Way so far. We danced around with Borealis. We're space trucking round the stars. Come on! Come on! Come on, let's go space trucking! Come on! Come on! Come on, let's go space trucking! Remember when we did the moonshot and Pony Trekker led the way? We'd move to the Canaveral moonstop when every knot would dance and sway. We got music in our solar system. We're space trucking round the stars. Was moving, but now we got a new machine. Yeah, 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 yeah. The freak said, man, those cats can really swing. They got music in their solar system. They rock round the Milky Way. They dance round the Borealis. They're space trucking every day. trucking. Come on, come on, come on, let's go space trucking.
Version très intéressante. C'est un de mes morceaux préférés de Deep Purple en plus.
On avait cru qu'il avait fini, mais non.
Non, il n'a jamais fini.
91 ans, il repart.
Oh la vache. Ça me donne envie de réécouter Deep Purple.
Come on.
Oh, j'ai toujours envie d'écouter Deep Purple, c'est pas un problème. Oh. Ouais, pas mal.
Bon, il faut du courage. Après, entre nous, à 90 ans, moi j'y pars. Hein, je réfléchis pas.
On avait passé des morceaux de Christopher Lee qui avait quoi, il n'est pas presque 100 ans, mais qui avait aussi, qui faisait des morceaux de black metal. Donc.
Et là, ce qui est bien, c'est que tu vois, au moins la voix n'est pas transformée, elle non. est posée. Ah, elle, ouais. Tu vois qu'elle manque peut-être de puissance, mais c'est dû à l'âge, mais au moins elle est posée et elle est juste. Quoi.
Mais c'est vrai qu'on pensait que Elon Musk allait se positionner tout seul sur le marché spatial et il se fait doubler un peu sur le niveau du tourisme. Et du coup, lui se retrouve vraiment en alliance cette fois-ci avec la NASA pour tout ce qui est un peu plus, allez, entre parenthèses, professionnel.
Faire des livraisons de colis.
Bah, je pense que ça lui rapporte de plus. Hein. Ouais.
À quand le premier dépôt de colis dans l'espace ?
Alors, William Shatner s'est un peu pris le chou, on va dire. Hein. C'est avec le prince William. Parce que le prince William a dit, écoute, avant de réfléchir à partir sur une autre planète, il faudrait peut-être sauver la celle qu'on a déjà. C'est beau, c'est poétique.
Ouais, c'est beau.
Et l'autre lui a dit, oui, mais calme-toi.
Il s'en fout, j'ai plus que 10 ans à vivre, mon gars, donc c'est pas moi qui vais.
Je fais du tourisme.
Voilà.
Mais bon, on sait bien que derrière, c'est quand même un gros coup de pub pour Jeff Bezos. Ouais,
c'est bien que Jeff Bezos, Elon Musk, tout ça, s'ils font des trucs pour aller dans l'espace, c'est qu'ils savent que la planète est pourrie, donc ils vont s'installer sur une nouvelle.
Et puis si t'es un prince, t'as les moyens de faire du bien autour de toi, non, au lieu de parler.
C'est un peu la crise, hein, la couronne d'Angleterre.
Ouais, enfin.
Non, mais leur père, le prince Charles, a toujours été très très engagé au niveau d'écologie, de protection des animaux, etc. Ça l'empêchait pas d'aller chasser après, mais c'est dans le respect.
La reine
ils allaient faire du prélèvement, pardon. Pas de la chasse, c'est du prélèvement.
Et la reine d'Angleterre n'a plus le droit de boire d'alcool. On lui a recommandé d'arrêter son petit verre de vin le soir et... Ah. On a vraiment des news de qualité ce soir.
Là, d'un coup, j'ai l'impression de dire gala et voici d'un coup. Wow.
Allez, on enchaîne. Alors, on écoutait bien sûr un William Shatner sur son album de reprise de chansons de l'espace. On va continuer dans l'agenda de la région, voire même là, plus à grande échelle, puisqu'on a le Z-Event qui re-signe pour un nouvel épisode, donc c'est pas dans la région. Ici, on parle d'un événement, bien sûr,
virtuel,
en ligne.
Théoriquement, c'est aussi dans la région.
Donc, le Z-Event, c'est quoi ? Ce sont les streamers les plus connus de France qui se regroupent dans un hôtel, dans un endroit, pour ensemble se donner des petits challenges et jouer à des jeux. Alors, des fois ensemble, des fois un peu moins.
Pendant 2-3 jours, à peu près, oui.
Voilà.
2 jours et quelques, ouais.
Ouais. Pour récolter des fonds pour une association. Mm-hmm. Alors,
on en parle à chaque fois parce que ils explosent les records, quoi. Mm-hmm. Et pas juste les records. Je crois qu'ils explosent les records mondiaux de.
Ah oui. De toute façon, en 2016 ça a commencé, où c'était pour l'association pour sauver les enfants, donc Avengers France, qui était de 170 000 euros. Et déjà là, à l'époque, ça avait fait les choux gras de la presse nationale. Et ça a fini l'année dernière, donc du 16 au 18 octobre 2020, où là, ils avaient fait 5 720 000 dollars, enfin euros, pardon,
pour Amnesty International,
sachant que l'année d'avant, donc en septembre 2019, ils avaient déjà fait 3 500 000 euros pour Institut Pasteur ils disaient c'est fini, on ne peut pas aller plus haut, c'est pas possible autrement.
Donc là, ils ont la pression.
Et donc là, je pense que tout le monde les attend au tournant. Il y a énormément de streamers qui font des actes caritatifs dans l'année. Maintenant, ça s'est très bien développé, donc tout le monde a donné petit à petit pendant toute l'année. Est-ce qu'ils ont assez de dons pour continuer à faire péter les scores comme ça ? Faut voir. Mais le but, c'est pas forcément de faire péter les scores, mais d'au moins d'avoir des dons, tout simplement.
Oui, et puis de parler, parce que pendant 3 jours, ils font aussi ils présentent l'association, le sujet dont ils parlent. Et donc cette année, c'est pour
l'ONG Action contre la faim, qui est une ONG qui est vraiment internationale. Et ça va de, si on regarde leur site internet, qui va sur des missions justement contre la faim, donc pour pouvoir aider les peuples à avoir accès à de la nourriture, mais aussi de pouvoir préparer des champs et aussi les maintenir durablement.
Donc là, on revient dans la région.
Aussi, voilà. Comme l'apport en eau, tout ce qui est aussi donc l'hygiène, tout ce qui est la malbouffe, tout ce qui est l'aide légale à apporter à des pays pour l'alimentation et aussi faire perdurer toute la... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, parce que nous, dans notre région, on a juste à faire une sorte de malbouffe à gérer, on n'en parle plus.
Mmh. Alors ouais, que, éduquer, puis, ouais, c'est même au plus petit niveau, quoi, l'école, apprendre aux enfants, ne serait-ce qu'à lire les étiquettes de ce qu'ils achètent au supermarché. Tout ça.
Et t'as aussi vraiment.
C'est pas parce
ce
que tu manges. Avoir faim, c'est pas juste que tu manges peu. Tu peux être de manger, tu manges de la merde parce que t'as pas les moyens.
Voilà, parce qu'on parle autant de nutrition que de la sécurité alimentaire, que par exemple que tu manges, mais tu manges correctement. Mm. Pas forcément un nutritionniste qui va venir derrière toi et te regarder. Voir. Non, mais juste être sûr que ce que tu manges est bien pour toi. Est-ce que tu plantes des légumes de saison ou je ne sais quoi, mais vraiment à grande échelle. Ils peuvent aussi faire des plaidoyers, ils peuvent. Occuper les personnes qui ont eu des traumatismes de perdre de la volonté de se nourrir suite à des guerres, à des conflits, parce qu'il y a eu une famine ou je ne sais quoi.
Est-ce et ils sont là aussi pour aider. Pour les gens qui ont perdu le goût à cause du Covid. Ah. On verra, peut-être.
Mais Action contre la faim, c'est FAIM. C'est pas Action contre la faim. Ils ont rien contre les gens qui veulent mourir d'eux-mêmes. Ouais. Tu vois, c'est pas que.
On en parlera.
Merci. Voilà. Merci de la précision.
Non, parce que j'en vois un là-bas qui me regarde au loin.
Donc là, ça sera les 29, 30 et 31 octobre. Donc c'est vendredi, samedi. Ça commence le vendredi soir, j'imagine, vers 20h. Oui. En ligne sur le, toutes les informations, c'est Zevent. Donc zevent.fr. Pourquoi Z ? Parce que c'est organisé à la base par un streamer très connu qui s'appelle Zerator et qui organise normalement des tournois de jeux, etc. Qui s'appellent toujours les Z Games. Et puis là, un jour, il a fait le Zevent.
C'est sa marque de fabrique.
À tout petit niveau. Voilà. Puis voilà.
Et en fait, ils sont un duo. Donc le Z, pour, comme tu dis, pour Zerator, qui est Adrien Nougaret, qui est la personne publique que tout le monde voit, ne serait-ce que dans les streams. Vous pouvez suivre sur Twitch Zerator, il n'y a aucun souci. Mais il est accompagné par Alexandre Dachary, donc Dash, je crois, son nom de, son nom de scène, qui lui est vraiment dans les coulisses et c'est lui qui est entre guillemets chargé de prod. Et je pense que là, ceux qui connaissent le Z-Event vont me tuer, mais on peut réduire ça à chargé de prod pour toute l'organisation.
C'est une organisation incroyable.
C'est le seul qui ne s'amuse pas pendant la fête.
nous qui connaissons les coulisses d'un festival, ne serait-ce que par exemple comme Ludinor, qui est immense et qui peuvent se faire sur 2-3 jours, et c'est rien comparé à un Z-Event.
Alors, il y a ça, et il y a aussi, lorsque les gens participent, généralement, ils ont en retour des fois un t-shirt, puisque vous avez pu voir
ce
Z vert. Vous avez sûrement vu des gens avec un Z vert et ce t-shirt Z-Event qui donne l'édition sur laquelle ils ont participé. Et je pense que derrière, pour aller à faire ensuite les envois,
l'année dernière, c'était amusant parce qu'ils avaient fait des plaques, des espèces de plaques gravées, enfin, je sais pas, en plastique. Et ils disaient, les premiers qui donnent, je sais pas, c'était 100 euros, n'importe quoi, il y en a 250, c'est limité. C'est parti en 3 minutes. Et ils disent, faut les fabriquer maintenant, faut les expédier, c'est la panique. Mais tout s'organise en même temps, en 3 jours, en temps réel. On peut suivre en temps réel pratiquement ce qui se passe, la panique et tout, c'est intéressant à voir. Donc voilà, fin du mois, le Z-Event. Voilà.
Ce que j'aimerais bien aussi avoir, c'est les paliers qu'ils vont mettre en place. Pour justement pour aider aux gens qui regardent de faire un don. Ouais. Parce que tu vas faire un don, mais sur quel streamer ? Quel acteur vidéo va t'intéresser à faire un don ? Sachant que c'est une cagnotte commune, mais chaque acteur a sa propre cagnotte, qui après reverse. Mais ils ont des paliers pour dire, si j'atteins moi de mon côté 100 000 euros que je reverse après aux Z-Event, je vais faire ça. Il y en a un qui était, je repars de Paris à Bordeaux en vélo, par exemple.
Il y en a un qui était barbu et dit, je me coupe la barbe. Il ne pensait jamais arriver à ce don-là. Puis, s'est fait couper la barbe en réel, en temps réel, devant les caméras.
Ça a été très très loin l'année dernière, donc j'aimerais bien voir cette année ce qu'ils vont trouver comme palier.
Ce sera la grande surprise, et c'est ce qui fera peut-être qu'ils vont encore...
On va suivre en direct dans l'émission. Non, je ne serai pas là.
Ah bon ?
Ben non.
Voilà, donc le Z-Event 29 au 31 octobre, tout se passe en ligne. Donc vous pouvez regarder à votre gré et suivre plusieurs streamers. Ils se lancent la balle généralement. Donc vous baladez de personne en personne sur différents jeux. C'est assez sympathique.
Ouais, de toute façon, tu ne peux pas le louper. Ça va de Michou à Mister MV. Donc au niveau tranche d'âge de streamer
Twitch.
Oui, puis
tout le monde en parle. C'est devenu...
Voilà, voilà, parce que ça.
C'est l'année dernière qu'il y a, comment il s'appelle, le présentateur de Question pour un champion.
Oui,
qui était
venu là pour le...
En direct chez un des streamers qui avait fait une espèce de petit Question pour un champion en direct.
On ne parle pas de Julien Lepers.
Non, l'ancien. Non. Le nouveau, pardon. Ouais. Etienne. Samuel Etienne.
Qui est bien aimé, qui normalement va repasser cette année.
Puis en plus, lui, il a sa propre chaîne Twitch maintenant. Enfin bon. Voilà. Twitch, c'est devenu hype.
Voilà. Et est-ce que Julien Lepers est devenu hype? Non.
Seulement dans le flim.
Alors, je vous propose d'écouter un peu de musique. Alors, vous le savez, on reçoit des albums qui viennent de sortir et ça va être l'occasion d'en écouter un nouveau aujourd'hui. Alors, je peux, pour Dominique, faire une petite parenthèse. Je sais que tu es fan de ce groupe rock qui est devenu très pop. Je parle bien sûr de Coldplay.
Folk. Ah non, c'est bon.
Alors, Coldplay a sorti un album un peu différent et ils indiquent qu'ils n'en feront plus que 3. Voilà, donc Dominique, dans 3 albums de Coldplay, c'est bon, tu n'en entendras plus parler. L'album s'appelle Music of the Spheres.
La musique des sphères.
Voilà, et il y a des titres qui ne sont pas orthographiés avec des lettres, mais avec des symboles.
Ouais,
donc là, on va s'écouter.
Des symboles qui viennent d'alphabets très bizarres.
Donc là, on va s'écouter Étoile et Losange. Enfin, je parle des symboles. Un voyage un peu dans l'espace. Vous me regardez perplexe, mais...
Non, on dirait leur morceau le plus connu, tu vois, mais extrêmement ralenti. Je sais plus comment s'appelle ce morceau. Mais tu passes très au ralenti, ça donne ça.
Tu aurais peut-être trouvé le...
C'est ça, c'est les mêmes notes, hein, j'ai l'impression.
Voilà, c'était Coldplay, la chanson en entier, je vous mens pas, ça dure 53 secondes. Alors du coup, on peut s'écouter une vraie musique. Une musique un peu plus longue, hein, pour pas offenser Coldplay.
Ah, tu veux plus te dire ne pas offenser nos auditeurs, surtout.
Il y en a un qui s'appelle cœur, il y en a un qui s'appelle infini. Enfin, c'est le symbole infini. C'est rigolo.
Tu veux t'écouter d'autres pistes de l'album?
Non.
Ah bon, voilà. On va s'écouter un peu de Tom Morello.
Un peu de musique.
Le guitariste connu pour avoir notamment participé à Rage Against the Machine. Également, je pense, sur Audioslave, si je ne me trompe pas. Il a fait un nouvel album. Ici, la chanson s'appelle The War Inside et l'album The Atlas Underground Fire qui vient de sortir.
Ils ont des logiciels pour générer les titres de musique d'album, quoi.
On va parler de génération par l'IA tout à l'heure. Attends Dominique, je crois que Coldplay a pas fini de chanter en fait. I can't see when the sun's gonna shine. I'm all right without you. I can't leave this world behind. I'm out here on my own. I'm out here on. Hard. Tom Morello, The War Inside. Alors, pour ceux qui se posaient la question, c'est pas Tom Morello qui chante, hein. Ici, c'était un feat avec Chris Stapleton, qui est un chanteur-compositeur de country. Et donc, la chanson s'appelait... Attendez, j'ai un bug. Ça s'appelait The War Inside et l'album The Atlas Underground Fire. Voilà, on sent bien le Tom Morello, notamment sur les bends de guitare, un peu parsemées de...
On sent qu'il est jaloux, il essaie de couvrir la voix du chanteur avec sa guitare vers la fin.
C'est ça. C'est pas un des seuls guitaristes qui a fait des albums comme ça en invitant plein de chanteurs différents. On peut citer Slash, par exemple, qui avait fait plusieurs albums où il invitait tous ses potes. Tiens, venez chanter, venez jouer de la batterie.
Venez prendre de la drogue.
C'est ça.
Venez récupérer des droits d'auteur.
Voilà.
Alors, il y a un événement qui est en train de se passer actuellement et nous ne sommes pas en train d'en parler, c'est le Spiel.
Ah oui, c'est vrai qu'il doit être en train de se terminer.
Alors, comme notre reporter Pierre-Yves n'est pas sur les lieux, exceptionnellement.
Bah oui, c'est quoi cette honte?
Donc nous avons décidé de faire une protestation et de ne pas parler de l'événement.
Absolument.
Voilà, on va parler donc du...
On va juste rappeler que c'est le plus gros salon international du jeu pratiquement au monde, quoi. Peut-être avec la Gen Con aux États-Unis.
C'est
il
ça.
Se déroule en tous les cas, ans aux États-Unis.
En tout cas, au niveau européen, c'est la messe. Enfin, c'est la messe. Là où il faut aller au niveau
exactement.
Europe.
Surtout quand tu es professionnel.
Et la prochaine fois, ils inviteront Pierre-Yves de Heureusement en France. Que veux-tu que je te dise?
Et là, on va tous mettre nos portables en silencieux parce qu'on va tous recevoir des messages. Voilà.
On va parler du Japan Fair Festival Bruxelles. Qui aura lieu très prochainement, du 6 au 7 novembre, donc le mois prochain quasiment.
Ah, bientôt, oui.
Donc, voilà. Japan Fair, c'est un peu une Japan Expo. Hein.
Sur toute la culture japonaise, pas que le manga, etc. Donc, c'est à Bruxelles. Ça, c'est payant, par contre. Donc, c'est simple, le site internet pour avoir toutes les informations. C'est sushi-festival.be. C'est pas compliqué. Ça annonce les couleurs. Il y aura de la bière, je ne sais pas. Mais bon, on va à Bruxelles, il y a toujours de la bière à un moment. Donc voilà, beaucoup de bouffe, d'objets, de la culture geek japonaise, des films, vêtements, des spectacles live, etc.
Également le mois prochain, le Dev Fest qui aura lieu à Lille. Mm-hmm. Donc un événement basé sur la...
Le développement, ça c'est plus pour les développeurs, enfin informatique entre autres, les nouvelles techniques. C'est intéressant parce que c'est organisé par une jeune femme qui s'appelle Fanny Demey, qui est une Lilloise, qui est elle, c'est la chef du groupe local qui organise ça. Et c'est parce qu'elle a un podcast, voilà. Je l'ai découvert parce qu'elle a un podcast où elle parle de développement vite fait, de high-tech, mais du point de vue de l'éthique. Elle fait un podcast qui s'appelle alors Tech Ethic. T-E-C-H, plus loin, éthique, E-T-H-I-C. Dans chaque épisode, elle parle des aspects un petit peu éthiques, ouais, du développement, de la high-tech. Par exemple, sur les deux premiers épisodes, chaque fois c'est un podcast, il y a deux épisodes, ça parle de l'accessibilité et pour les non-voyants. Quand tu fais un site internet ou une application, etc., ou que tu développes un outil, même du matériel, est-ce que tu penses à t'adresser aux gens qui ne sont pas forcément l'accessibilité de la plupart des gens, les non-voyants ou les gens qui ont des problèmes de vue en général, etc. C'est super intéressant, comment coder une application de numérique qui est accessible aux personnes déficientes visuelles, ou l'écologie dans le green IT, dans le numérique, comment ça marche, etc. Et donc, c'est cette jeune femme qui participe à l'organisation du DevFest. Ça sera à Kinépolis Lom. Alors, les dates, ça sera le 19 novembre, donc dans un petit mois. C'est à Lille, donc il y a plein de conférences. Il y a déjà le programme sur le site, c'est DevFest, devfest.gdglille.org. Voilà, avec les gens qui vont intervenir, il y a des conférences, etc. C'est très intéressant.
Et pour moi qui ne suis pas développeur, qui ne connais pas grand-chose en code ou quoi que ce soit au niveau tech, j'étais en train de lire les différents intervenants et je suis pas mal intéressé, ne serait-ce que par certains, voire même certaines personnes qui ont des contenus, ne serait-ce que par exemple la personne qui s'occupe du cloud de Google, mais... Et derrière, tu as des personnes qui disent, bah voilà, moi je m'occupe de comment améliorer les développements et les automatiser. Automatiser des développements, mais que ça reste en même temps, comme tu disais, le green. Tu vois. Mm-hmm. Et rien que pour ça, c'est intéressant, ne serait-ce que si tu t'y intéresses un petit peu. Quoi.
Voilà, mais je vous conseille vraiment d'écouter le podcast Tech Ethic. ça va vous changer. Si vous n'êtes pas, ou si vous ne connaissez pas de personne qui est non-voyante, etc., ça va changer votre vue sur la façon dont on conçoit un site web ou une application. Par exemple, un truc tout bête, moi je le fais maintenant quand je mets le podcast en ligne sur notre site, anotherpodcast.fr. Quand je mets une image, j'essaye de toujours mettre une légende. Vous savez, on peut mettre ce qu'on appelle un texte alternatif ou une légende. Des fois, tu mets rien, et quand tu passes ta souris sur une image, des fois, il y a un petit texte qui s'affiche quand tu es sur un site internet. Mais pour les non-voyants, c'est super important parce que les images, ils s'en foutent. Donc, ils ont des outils pour naviguer automatiquement. Et ces outils-là, quand ils passent sur une image, ils repèrent le texte alternatif. Et par exemple, si tu as une image d'un gâteau avec des bougies allumées dessus, toi, en tant que voyant, si tu vois l'image, c'est un gâteau d'anniversaire. Si tu es non-voyant, s'il y a juste écrit gâteau, ok. Mais des fois, il faut mettre un texte en disant l'image représente un gâteau avec des bougies allumées à cadeau anniversaire. Et le logiciel, l'assistance pour ces utilisateurs non-voyants, pourra te décrire un site et te permettre de naviguer. Surtout quand c'est des images sur lesquelles tu peux cliquer. C'est important parce que là, c'est essentiel pour ça.
Alors, cette manipulation que tu effectues maintenant est majoritairement faite par intelligence artificielle.
Des fois. Quand c'est pas fait.
Puisque, voilà, on a pu le voir notamment sur Facebook. Lorsque l'image ne se charge pas, vous pouvez voir le titre qu'a compris Facebook. Une personne avec un gâteau. Voilà. Et quelquefois, ça peut aller dans des directions qui ne sont pas forcément...
Des fois, il vaut mieux pas avoir de texte alternatif qu'un texte alternatif.
On a d'autres événements qui se passent le mois prochain. Je vous propose de les garder, puisqu'on a le temps pour en discuter. Vu qu'on parle de l'intelligence artificielle, avant l'émission, nous nous sommes regardé un petit film. C'est assez inhabituel. Nous avons regardé un film d'horreur. Alors, c'est bientôt Halloween, c'est génial. Un film d'horreur écrit, alors je ne vais pas dire réalisé, mais non. Les dialogues et le scénario sont écrits par l'intelligence artificielle. Et on s'écoutait, donc, si vous étiez là lors du début de l'émission, vous avez écouté ce petit sample. Est-ce que vous voulez vous le réécouter?
Bien sûr.
Je vous le redonne. He's no whale. He's an underwater cop.
C'est pas l'intelligence artificielle qui a fait les voix, hein. Mais effectivement, j'imagine qu'on lui a rempli dans une base, on lui a mis plein de films, de scripts, de films d'horreur qui ont eu du succès ou pas, etc. Puis l'intelligence a un peu digéré ça, voit ce qui marche, etc. Et a généré son propre script avec ses propres dialogues.
D'après ce que tu peux lire à droite à gauche sur la toile, c'est près de 4000 films qu'elle a ingurgité, des films d'horreur de tout type, qu'elle a ingurgité, puis qu'après, elle a pondu le.
Parce qu'effectivement, dans tout, minutes. Alors j'en ai pas vu 4000, mais il y a des choses qui reviennent, quoi. La façon, ne serait-ce que l'enchaînement des chaînes, ou même le nom des personnages, leur métier, la façon dont ils interagissent, à quel moment dans le film intervient le méchant, est-ce qu'il meurt à la fin, et comment est-ce qu'il tue, c'est tous les gros films à succès. Ah, il y a des recettes qu'on voit toujours. Il y a certains films, c'est du copier-coller, surtout quand c'est des suites. Mais là, c'est très intéressant. Et donc, il y a des gens, j'imagine, qui ont repris derrière le script, qui ont engagé des acteurs pour faire les voix. À moins que ce soit des voix de synthèse, c'est pas impossible.
J'ai l'impression qu'on est sur des voix de synthèse.
Et qui ont fait, avec un moteur 3D style jeu vidéo, qui ont refait le visuel du film pour que ça donne une vidéo YouTube. En gros, c'est...
Alors, les dialogues sont... paraissent... inapproprié au début, en fait, lorsqu'on regarde, on se dit, mais en fait, c'est génial, puisque l'intelligence artificielle arrive même à faire des blagues. Ce qu'on venait d'écouter, en fait, c'est, pour ceux qui n'ont pas pu bien entendre, ce n'est pas une baleine, c'est un agent détective infiltré.
Alors, undercover, ça quand on dit c'est un flic infiltré, là, c'est underwater cop. En gros, l'intelligence artificielle, non seulement elle a pondu un scénario, mais elle a fait des espèces de jeux de mots, peut-être involontaires, je ne sais pas, en mélangeant les phrases qu'elle a retrouvées dans les films. C'est fou, et ça donne quelque chose d'assez... Au début, c'est un peu perturbant, c'est un peu classique. On va pas spoiler le scénario, mais en fait, c'est une femme au début qui s'appelle Jennifer, une blonde, bien sûr, et une jeune femme blonde. Parce qu'effectivement, quand tu penses à tous les films d'horreur que tu as vus ou films de suspense, c'est vrai que souvent, c'est des jeunes femmes blondes qui peuvent être l'héroïne ou la victime. Et elle est enfermée, elle est attachée dans un endroit mystérieux avec une espèce de personnage marionnette. Alors j'ai tout de suite pensé à la série des films Saw, et qui lui donne des puzzles, des épreuves à résoudre pour survivre. Et il va se passer des trucs. À un moment, il y a un flic qui arrive. par hasard et il se prend une baleine dans la tête. Là, ça commence à partir dans l'espace. Au début, c'est un film classique et on tombe dans du David Lynch après. C'est très amusant. C'est très surprenant.
Là, l'histoire de la fille pour les films d'horreur, c'est ce qu'on appelle la last girl. En fait, c'est la fille héroïne qui va normalement survivre, entre guillemets.
Un peu traumatisée,
il va peut-être lui manquer des membres, des trucs comme ça. Bon. Suivant le film, mais qui va quand même résister jusqu'à la fin du film. Et à la fin du film, suivant le film, va peut-être mourir, survivre, voilà. En fonction de savoir si tu vas avoir un 2, un 3, etc. Va supporter tout le film. Et c'est ce qui est là dans ce petit bout de 4 minutes.
Karen, Kelly, Jennifer,
dans
Samantha,
ce petit bout de 4 minutes, elle est très très bien représentée. C'est excellent.
C'est très fort. Si quelqu'un, t'avais confié à quelqu'un, un vrai écrivain, on va dire, de résumer, de faire. De prendre tous les films d'horreur ou de fantastique ou tous les slashers et d'en faire une espèce de résumé, ça aurait peut-être donné la même chose. C'est un peu ce qu'elle a fait. Mais ce qui m'a surpris, c'est l'invention des dialogues. Effectivement, le undercover cop qui devint un underwater cop parce que c'était une baleine.
C'est magnifique.
C'est du délire, quoi.
Et il y en a plein, des petites phrases comme ça. Donc, si vous les retrouvez.
Il y a des jeux de mots involontaires ou pas, et c'est trop fort. Parce que est-ce que l'intelligence artificielle sait qu'elle est en train de faire de l'humour, ou elle a juste mélangé des bouts de phrases qui semblaient marcher, et ça donne quelque chose de très étonnant. J'aimerais bien qu'ils prennent le scénario et qu'ils le fassent vraiment avec des vrais acteurs, c'est-à-dire des acteurs connus en plus, tant qu'à faire. Ce serait très amusant.
Alors, si vous voulez voir ce film, il faut aller donc sur la chaîne Netflix Is a Joke. Et
c'est
le film.
YouTube, hein.
Ça s'appelle The First Horror Movie Written Entirely by Bots. Donc voilà, le seul film complètement écrit par
l'intelligence artificielle. On savait qu'il y a certains scénaristes, réalisateurs qui ont des générateurs automatiques de scénarios. Hein.
Sur cette chaîne YouTube, vous trouverez énormément de pubs pour Netflix, forcément.
Des vraies pubs ou des fausses pubs? C'est pour se moquer.
Je vous laisserai voir. Mais vous avez aussi la petite playlist où se retrouve justement le petit film dont on parle, avec aussi... 4-5 autres petits films de 4-5 minutes, mais là qui sont faits par des bots, et dont un qui est aussi le The First Holiday, qui parle des fêtes de fin d'année. Vous avez aussi le First Romantic Comedy. Tout ça, ce sont des films qui sont faits que par des bots. Il n'y a pas de traces d'humain dans la conception.
À part dans l'aspect visuel.
Voilà.
D'ailleurs, c'est amusant parce que souvent, on écrit des choses et on demande à une machine de réaliser, de faire
compiler,
le visuel, et là, c'est l'inverse.
Donc, n'hésitez pas à aller vérifier tout ça.
Alors, vu qu'on parle d'intelligence artificielle, on peut dévier assez facilement sur la robotique maintenant, sur les robots. Alors, vous savez, on est fan de ces chiens robots.
Les robots sont nos amis. Il faut les aimer aussi.
Voilà. Alors, les robots sont tellement nos amis que Ghost Robotics dévoile maintenant un chien robot tueur. Donc ça y est, maintenant on s'embête plus. On met des armes sur les quatre pattes animées, donc... par le robot. Alors,
est-ce qu'ils ont pris quoi? Ils ont pris quoi comme chien? Un chihuahua?
Ah non, ça ressemble pas vraiment à un chien. On appelle ça un chien robot tout simplement parce qu'il a quatre pattes et qu'il est monté d'une base sur laquelle on peut mettre ce qu'on veut. On avait pu voir les chiens de Boston Dynamics avec des paintballs. Mm-hmm. Vu que la société donc Ghost Robotics se spécialise pour l'armée, eux ont mis des vraies armes. Alors elle rassure.
Un fusil de sniper, hein, tant qu'à faire.
Voilà. Alors, rassurez-vous, la société vous indique que Spur, donc S-P-U-R, ce robot.
Special Purpose Unmanned Rifle. Donc en fait, c'est un fusil autonome. Ouais, c'est ça, c'est même pas un chien, c'est un fusil à pattes. C'est un fusil à pattes.
Il est assisté par l'humain, ce qui veut dire que c'est l'humain qui contrôle le robot. Non, mais j'aime bien la façon de rassurer.
Oui, c'est du langage, c'est trop fort.
On a d'autres robots qui ont été présentés récemment. Il y a le robot Leonardo. C'est un robot.
C'est une tortue?
Non. Qui fera 3 kilos, complètement autonome, sans fil, qui sera équipé de deux hélices, alors qui sera capable de courir, de voler et de faire du skate.
Donc une tortue. Une tortue ninja, Leonardo.
On en a plein des robots, c'est magnifique. Il y a la société chinoise XPeng Robotics qui dévoile un robot licorne cette fois-ci.
Alors, c'est amusant parce que c'est un robot avec quatre pattes, mais là c'est pas un chien, c'est une licorne. Pourquoi pas? Ah, peut-être qu'il a une pointe sur la tête.
Et oui, Dominique, effectivement. Alors là, c'est une start-up chinoise qui vient de dévoiler donc le robotique Unicorn, un quadrupède entièrement destiné cette fois-ci aux enfants.
Il promet même des interactions émotionnelles. Ça fait peur. La peur, par exemple, c'est une émotion. Donc, si ton chien te fait peur, c'est une interaction émotionnelle. On ne pense pas aux autres interactions émotionnelles qu'il peut y avoir avec une machine, non.
Là, au moins, on peut dire qu'ils ont fait un petit avantage quand même, c'est que pour tous les robots qu'on a parlé avant, tu avais juste, comme tu disais, une base avec quatre pattes pour le mouvement et une arme. Là, tu as quand même quatre pattes, la base, un torse, une sphère qui ressemble à une tête. Ils ont fait l'effort au moins de mettre un peu, que ce soit un peu anthropomorphe, tu vois.
Il y a même un peu de couleur.
Mmh. Ouais, du blanc et du jaune.
Il paraît que la Légion étrangère travaille sur des chèvres robots pour accompagner les légionnaires pour les longues nuits.
Pour leur morale. Comment rattraper ça ?
Ah, vas-y.
Merci. Donc, le robot Licorne, malheureusement, n'a pas encore de prix, pas de date encore d'exploitation.
Et c'est bientôt Noël, les gars, il faut réagir. Hein.
C'est ça. Mais je pense que ça risque d'être moins cher que le Spot, notre cher chien robot. Alors, cher dans tous les sens du terme, puisqu'il est à 75 000 $. D'autres petites news en vrac. Alors, on parle souvent ici de Lego, qui sont un peu tournés à toutes les formes. Alors, cette fois-ci, le Lego va rejoindre l'informatique, va venir s'incruster dans votre unité centrale. Alors, si demain, vous voulez faire une petite extension de DDR5, donc rajouter un peu de mémoire dans votre ordinateur, si bien sûr il est compatible, vous allez pouvoir demander à Galax de vous fournir des nouvelles barrettes, cette fois-ci en Lego.
Alors, c'est des barrettes, enfin, elles sont pas en Lego, elles ont un look un peu Lego. On a parlé, il y avait quoi, des chaussures de sport, des baskets avec un look sur lesquels tu pouvais mettre des Lego, qui avait un peu un look Lego. Bon, là, c'est de la communication. On n'est pas sûr que le look final, ça sera ça, mais est-ce que ça sera en association avec Lego? Apparemment, oui.
Alors, à moitié Lego, puisque tu peux empiler sur le dessus de la barrette de RAM quelques petites piles Lego.
Voilà, tu pourras les personnaliser. Bon, c'est un peu étonnant, enfin, pour les gens qui connaissent, parce que Galax, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est une boîte qui est vraiment c'est du haut de gamme, très, très sérieux, normalement. Donc là, le fait de donner un petit codé jouet, ça fait baisser un petit peu leur sérieux, bizarre. C'est ça qui a le plus étonné les gens.
Bon, surtout pour les personnes qui prennent des ordinateurs un peu avec un côté vitré pour montrer toutes les LED et tout qu'ils ont à l'intérieur de leur PC, chose que généralement, nous, on voit pas, parce qu'on a les deux côtés opaques.
C'est un peu comme.
On s'en fout.
C'est un peu comme si Alienware demain faisait un thème Hello Kitty. Ça serait un peu surprenant. Ah, du coup, ça a donné des idées, je pense. Dom est en train de faire une précommande. Toujours dans Lego, on va avoir peut-être un des plus gros sets de Lego.
Je pense que c'est le plus gros, ouais.
De 80.
Non. 9090 briques. J'imagine même pas la taille de la boîte qui t'arrive. Alors, 9090 briques pour fabriquer un seul objet en plus. Ça sera la reconstitution du Titanic. Le bateau pour les 110 ans du décollage, du coulage du Titanic. Oui, puisqu'il est parti en 1911, ouais, c'est ça.
De Belfast.
Ouais. Mais alors effectivement, il est très impressionnant. Il fait quoi ? À peu près un mètre de long. Donc,
1,3
c'est vraiment,
mètres de long.
Ouais, il y a énormément de détails, puisque même à l'intérieur, alors apparemment, on peut le couper, puisqu'on pourra peut-être simuler la fin du Titanic, puisqu'on peut le séparer en plusieurs parties. Mais même l'intérieur, c'est pas juste la série, mais même l'intérieur avec toutes les salles, etc., les moteurs, tout est reconstitué en Lego, on comprend, mais plus de 9000 briques, c'est impressionnant. Le prix est impressionnant aussi.
Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu proposes un produit de Lego du Titanic, t'as pas besoin de te poser la question s'il flotte, c'est pas très grave.
Il faut avoir une baignoire parce qu'effectivement, il fait plus d'1,30 m de long. Donc, il faut avoir une sacrée baignoire ou une piscine, mais c'est pas mal.
Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est imposant. Mais
alors, le nombre d'heures pour le monter.
Ça donne envie. Il y a une réplication de la salle des machines, par exemple, avec les technologies de l'époque qui est assez bien réalisée. Vous pouvez sortir les éléments.
Voilà, donc il coûte 600. Il est disponible à partir du 1er novembre 2021, à partir de 629,99 €. Le centime, mais c'est très important.
Et je me posais la question justement, parce qu'il y avait une autre grosse pièce de Lego qui avait fait fureur sa sortie, surtout les vidéos YouTube, donc on voyait les gens le jeter par l'escalier et s'éclater dans leur salon, que ça rendait fou les gens qui l'avaient construit, qui était le vaisseau Imperial Star Destroyer de Star Wars. Qui était pareil, là, il est actuellement sur leur site à 699,99 €, pour ne pas dire 700 €.
Pour moins de pièces.
Et en fait, il est à 4784 pièces.
Ouais, mais la licence Star Wars, ça coûte bon.
Voilà, non, mais c'est pour ça. Et déjà, pour ceux qui avaient suivi à l'époque le montage de ce type de Lego, c'est énorme.
C'est un temps fou, quoi. Il voilà. faut être une équipe, là, pratiquement.
Ouais, et parce pourtant, que c'est une très grande pièce. Hein. Donc, si le Titanic êtes, est plus restreint.
On parlait de Twitch et de streamers tout à l'heure. Il y a sur Twitch, vous pouvez chercher, il y a des fans de Lego, des collectionneurs, presque des professionnels, qui passent leur soirée en direct sur Twitch à discuter avec vous et qui sont en train de jouer, enfin, de jouer au Lego. Est-ce qu'ils jouent encore? Ils sont en train de monter les derniers sets Lego. Donc, est-ce qu'il y aura des Twitchers qui vont s'attaquer au Titanic?
Moi, j'attends, on avait parlé la dernière fois d'une application qui permettait de scanner les Lego que vous avez pour vous proposer.
Je pense qu'il va falloir un gros. Pour prendre la photo, pour scanner tes 10 000 pièces de Lego.
Malheureusement, on a pu voir sur les commentaires de l'application que c'était pas encore assez fonctionnel pour être utilisé à bon escient. Mais j'espère un jour, voilà, quelque chose qui permet d'utiliser vos Lego que vous avez pu démonter une paire de fois maintenant qui traîne peut-être dans un sac. Satan, vous en avez assez pour faire un mini Titanic.
Mais juste le Titanic à la fin, juste, tu fais juste la partie qui dépasse de l'eau. tu peux faire l'iceberg. Est-ce qu'il y a l'iceberg dans la boîte? Ils vont le vendre à Paris, ils vont vendre un truc avec un iceberg. Bon, l'iceberg en Lego, j'avoue que ça peut être top. Juste des pièces blanches. Bon.
La boîte avant et la boîte après.
Voilà. Ah, ou alors peut-être que la boîte elle-même en carton, il pourrait la faire en forme d'iceberg. Hein. Tu la mets à côté de ton.
Je suis sûr que ça va plaire à Pierre-Yves qui pourra faire des crossovers avec les Friends qui se baladent sur le vaisseau du Titanic. Pourquoi pas? D'autres petites actualités. Bon, on va passer à la dernière partie avec un dernier album, peut-être. Encore un album qui est sorti récemment. C'est le titre s'appelle Material World de Aiden Thorpe.
Ah, c'est une chanson de Madonna, ça, Material World.
Absolument. Alors, Aiden Thorpe, c'est donc un chanteur, compositeur et instrumentiste qui nous vient d'Angleterre. J'aurais un peu du mal à définir le style de musique. On va voilà, un peu pop, peut-être. L'album vient de sortir, ça s'appelle Moondust for My Diamond.
Je confirme, ils ont des générateurs aléatoires de titres d'albums.
C'est ça.
Donc c'est une reprise de Madonna, c'est ça?
Pas du tout.
On verra.
Voilà. On se retrouve donc pour notre part la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On aura un invité la semaine prochaine qui sortira en courant du Hammer Time pour nous rejoindre. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Radio Campus Lille.